Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui, comme vous le savez, démonte chaque semaine les rouages de l'économie. Aujourd'hui, les rouages d'un secteur qui flambe, notamment depuis l'arrivée du Covid-19, le commerce électronique, commerce en ligne, e-commerce, vous l'appelez comme vous voulez, tout ce qui permet d'acheter sur son ordinateur ou sur son téléphone, et sans se déplacer, à peu près tout ce qui peut se vendre où que ce soit sur la planète. Nous sommes, paraît-il, plus de 4 milliards d'internautes. Un progrès immense pour les uns, une ineptie économique et environnementale pour les autres. À l'approche des fêtes de fin d'année, le débat fait rage autour de la survie du commerce dit traditionnel, le commerce dit physique. Un débat parsemé de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Faut-il mieux réguler les mastodontes que sont devenus Amazon, Alibaba et plusieurs autres? Faut-il les taxer comme le demandent certains dirigeants européens? Faut-il au contraire les encourager à s'implanter un peu partout dans le monde afin qu'ils deviennent des leviers de croissance pour d'autres entreprises plus petites mais qui bénéficient de ces plateformes au bras long? Comment traiter les problèmes de distorsion de concurrence? Autour de notre table, virtuel comme il se doit, Flavien Neuvy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de l'observatoire CTLM. Vous observez les habitudes de consommation, notamment des Européens. Mouamadou Diallo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste sénégalais, fondateur et directeur général de CEO Mag. C'est un magazine dédié au secteur technologique diffusé dans une vingtaine de pays d'Afrique. Vous organisez régulièrement des conférences sur ces questions de transformation digitale. Vous venez d'animer, par exemple, les assises de la transformation digitale en Afrique. Et puis, nous sommes avec Bertrand Hartmann. Bonjour, vous êtes à mes côtés même.
Bonjour.
Et vous travaillez pour le marketing d'une grande société européenne, spécialiste du management, de l'innovation, de la disruption numérique. 10 années d'expérience partagée entre la France et la Chine. Vous avez longtemps vécu à Pékin, c'est ça?
Absolument.
Les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Amazon Go Back, Amazon rentre chez toi, manifestation de commerçants à New Delhi en Inde. C'était au début de l'année pour protester contre une visite de Jeff Bezos, le patron multimilliardaire du numéro 1 mondial du commerce en ligne. C'est même l'homme le plus riche du monde. Flavien Neuvy, à vous la première question. Vous qui suivez avec attention les habitudes de consommation de nos autres terriens, sommes-nous condamnés à ce combat de plus en plus violent entre les pros et les anti-commerces électroniques?
Combat, oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la crise sanitaire a certainement renforcé en fait cette préoccupation de savoir comment articuler d'une part les ventes en ligne qui ne cessent de progresser, et quand on regarde sur ces 10 dernières années, on se rend compte qu'effectivement cette progression est à la fois régulière mais surtout très forte, et dans quasiment tous les pays en réalité, et tout en préservant le commerce local, les magasins qui évidemment voient arriver cette concurrence de plus en plus forte et qui souffrent. Et on voit par exemple qu'aux États-Unis il y a beaucoup de magasins qui sont obligés de fermer, on voit même en Europe des enseignes qui sont obligées de réduire le nombre de points de vente parce que justement il y a de plus en plus de clients qui achètent en ligne, et quand ils achètent en ligne, évidemment après ils vont pas acheter en magasin. Et au fond, la vraie question en fait au bout du compte, c'est pourquoi les clients de plus en plus privilégient l'achat en ligne. Bien sûr, la crise sanitaire a accéléré ces tendances, mais c'est surtout que ça offre un service qui est jugé comme étant très performant. Vous êtes chez vous,
ils aiment ça, le magasin.
Oui, c'est-à-dire que les consommateurs, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Internet est ouvert, vous commandez, on vous livre chez vous. Donc il y a une qualité de service, si vous voulez, qui est très forte. Et c'est ce qui explique, au moins en partie, pourquoi les ventes en ligne marchent bien.
Qualité de service avec des bémols, on y reviendra tout à l'heure. Bertrand Hartmann, Amazon est agité dans de nombreux pays comme un chiffon rouge, comme l'ennemi numéro un du petit commerce. Est-ce que c'est le cas aussi d'Alibaba dans certains pays? Apparemment non.
Apparemment non. Alors pour moi, le e-commerce en Chine a une dimension véritablement structurelle. Ça va au-delà d'un secteur économique ou d'une modalité de distribution. C'est un vecteur de transformation de l'économie chinoise. L'économie chinoise, elle a besoin de basculer d'une économie qui exporte et qui s'appuie sur une main-d'œuvre à bas coût vers une économie qui est fondée sur l'innovation, vers une économie qui leverage son marché intérieur pour croître. Et le e-commerce, Alibaba, Tencent, toutes ces plateformes digitales sont un vecteur de transformation.
Et donc ça les rend plus populaires ou moins impopulaires ?
C'est l'infrastructure de la consommation chinoise, c'est presque l'infrastructure transparente qui fait le marché, qui est une modalité de catalaxie, c'est-à-dire d'appareillement de l'offre et de la demande. Le consommateur chinois, il vit avec Alibaba, il vit avec WeChat, il n'a finalement connu en caricaturant presque que ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour moi aussi, c'est un vecteur d'inclusion sociale aussi. Sur un marché comme la Chine qui est immense, ça permet aussi de faire rencontrer des petits producteurs et les consommateurs. Ce sont des places de marché. Donc il y a cet élément-là qui est aussi poussé beaucoup par Jack Ma, ou qui était poussé beaucoup par Jack Ma lorsqu'il était CEO. Cette inclusion sociale est absolument fondamentale en Chine. Donc moins de contestation à mon sens.
Mouhamadou Diallo, cette croissance du commerce électronique entamée dans le monde il y a à peu près 25 ans, vous la constatez aussi sur le continent africain, malgré les problèmes inhérents, le sous-équipement parfois, les problèmes de réseau, malgré ces handicaps, vous constatez cette croissance ?
Oui, tout à fait. L'e-commerce est une vraie alternative au manque d'infrastructures que vous venez de souligner. Donc, c'est une alternative à ce manque d'infrastructures physiques où la pénétration des magasins est très faible. Et aujourd'hui, le fait d'avoir recours à ces solutions fournies par l'e-commerce et de proposer une zone de chalandise beaucoup plus large que le nombre de pas qu'on peut faire pour accéder à ses clients est une aubaine pour l'économie africaine. Cela est sans problème, puisque aujourd'hui, quand on voit que la première licorne africaine est Jumia, qui a été coté à la bourse de New York il y a quelques années, c'est un indicateur qui prouve que l'e-commerce a de l'avenir devant nous. Et si nous voyons ce qui se passe par rapport au paiement de factures électroniques, par rapport à l'ensemble de choses qui se font aujourd'hui avec les téléphones portables, je pense que l'e-commerce est une alternative au manque d'infrastructures physiques, malgré le fait qu'on constate qu'il y a ce problème de connectivité qui est inhérent à l'Afrique, et malgré tous les problèmes qu'on peut constater. Incontestablement, l'e-commerce est une belle alternative pour le commerce africain. Une personne disait récemment, c'est le fondateur de Koufa, parce qu'il y a quand même beaucoup de start-up dans l'e-commerce qui voient le jour en Afrique. Il disait qu'un Africain achète un produit de première nécessité, il paye 40% du prix de la logistique de distribution, alors que la moyenne mondiale est de 15%. Donc c'est 25% du prix d'achat qui s'évapore avec le commerce physique. Et aujourd'hui, si on arrive à virtualiser ce commerce à travers les plateformes du commerce, je pense que tout le monde aura y gagné.
Vous parliez des magasins en Afrique. On va entendre des propriétaires ici, en France, puisque depuis quelques semaines, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui sont indispensables au chiffre d'affaires de beaucoup de ces commerçants, et alors que beaucoup étaient fermés à cause du confinement, le débat s'est enflammé. Comment empêcher Amazon et consorts de profiter de la situation, de vendre encore plus que d'habitude? Certains de ces commerçants ont décidé de s'organiser, de s'adapter. C'est un reportage d'Abla Jonaïd dit pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
La boutique de Florence Lanfranchi, décoratrice, brille déjà aux couleurs de Noël. Son nom ne s'invente pas, l'essentiel. Le click and collect, c'est nouveau pour cette commerçante de quartier.
J'ai mis en ligne un site que je monte, donc c'est beaucoup d'investissement personnel, en plus de tout le boulot qu'il y a d'agencement des vitrines qui sont complètement différentes d'avant. Après le click and collect, c'est pas encore une habitude qu'ont les gens de regarder, oui, de cliquer, d'acheter, de commander. Donc les gens préfèrent de toute façon
venir voir,
toucher.
Vous venez d'ouvrir ?
Oui.
Okay.
Là j'étais en train d'essayer de mettre une vidéo sur YouTube.
Perrine Mallet, dans sa boutique de jouets, tête de clown, le confirme.
Ici c'est chaleureux, il y a le conseil. Et ça, vous le trouvez nulle part ailleurs.
Mais bon. Mais c'est bien, moi, je savais pas que vous étiez ouvert, donc c'est super, franchement, je suis ravie.
Ici, c'est surtout une clientèle fidèle qui passe, et monter un site internet pour la marchande relève tout bonnement de la gageure.
Avoir un site marchand, c'est génial, mais bon, ça coûte très cher. Que si on veut quelque chose de bien, pour mettre chaque référence, que ça soit lié à mon stock à chaque fois pour savoir si je l'ai bien toujours, etc. Il faut bien investir dans les 4 000-5 000 euros pour avoir vraiment un site marchand.
Cdiscount, la plateforme d'achat numérique française, s'est emparée de la question en proposant aux commerçants français de vendre gratuitement leurs produits en click and collect sur son site. Marie Evin, directrice générale adjointe du groupe.
Le digital reste un relais important pour les petits commerces. Alors c'est la raison pour laquelle le dispositif d'urgence que nous avons mis en place, nous ne l'avons pas limité à la durée du confinement. Concrètement, pendant 6 mois, le click and collect est gratuit et surtout, on a mis en place une équipe dédiée qui est là quotidiennement pour aider les petits commerçants à faire leur premier pas en ligne. Donc on est au téléphone avec eux, on passe le temps qu'il faut pour expliquer comment on présente un produit, comment on met son catalogue en ligne, comment on peut animer son offre. Et ça permet comme ça de mettre le pied à l'étrier du digital.
C'est pas mal.
On essaye.
Perrine Mallet, jalouse de son indépendance, se contente pour l'heure de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Elle compte sur le retour physique de ses fidèles clients ce week-end.
Les gens ont retrouvé un petit peu les petits commerçants pour essayer de nous aider, participer à l'effort de sauver leur commerce. Parce qu'ils se rendent compte que si on ferme, le quartier, il n'y a plus rien. Donc tous les ans, on a la concurrence des grandes surfaces, d'Amazon. On arrive à se maintenir, mais en étant fermé un mois, ça devenait très difficile.
La numérisation des petites entreprises en France est un vaste chantier. Parmi les PME dont ces petits commerces font partie, un tiers seulement ont leur site internet.
Merci à vous. Merci. Bonne journée, madame. Au revoir. À bientôt. Au
revoir. Et oui, les choses sont en train de changer. Flavia Neuvy, on sent des commerçants désarçonnés et aussi un peu inexpérimentés face à cette poussée du e-commerce.
Oui, c'est vrai. Et quand on refait un peu l'historique de la montée en puissance du e-commerce sur ces 20 dernières années, au départ, on avait ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des sites internet qui se sont créés juste pour la vente en ligne. Donc ça a été le début. Donc il y a eu des grands noms. Alors si on prend l'exemple de la France, il y a eu Rue du Commerce, Grobil, etc. La deuxième phase du développement du e-commerce, ce sont les grandes enseignes qui avaient des magasins qui ont décidé de se lancer dans la vente en ligne. Ils y sont allés après parce qu'ils avaient peur de la concurrence d'internet, mais ils y sont allés autour des années 2008-2010. Et le troisième et dernier étage de la fusée, ce sont les petits commerçants qui, eux, et on l'a entendu dans votre reportage, ne savaient pas trop comment faire en se disant mais ça va coûter cher, c'est compliqué, mes clients ils sont pas habitués à la vente en ligne. Et au fond, la crise sanitaire qui a mis beaucoup de pays à l'arrêt, qui a obligé les magasins à fermer dans beaucoup beaucoup de pays, finalement a obligé ces commerçants à s'interroger sur comment je peux continuer à vendre mes produits alors que le magasin est fermé. Il n'y a pas de 36 solutions, il y en a qu'une, c'est la vente en ligne. Et donc en fait c'est un peu l'aboutissement d'un long processus, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup d'interrogations autour de comment faire pour vendre mes produits en ligne. C'est compliqué, c'est cher. Voilà, mais tout ça est en train petit à petit de se caler, même si effectivement c'est pas facile.
Bertrand Hartmann, beaucoup de petites entreprises, ici en France, c'est sans doute le cas ailleurs, ignorent ce potentiel du commerce électronique. Qu'en est-il en Chine ?
Alors, la Chine et le marché du e-commerce en Chine, il y a une forte imbrication entre le online et le offline. Et encore une fois, parce que c'est l'infrastructure de la société de consommation chinoise. Alibaba orchestre l'offre et la demande, aide les petits producteurs, aide les commerçants aussi à vendre en ligne. Donc ça, c'est le premier élément. Par contre, ce qui est intéressant sur la Chine, et encore une fois, qui va au-delà de l'expérience européenne, ces acteurs du e-commerce, ils plongent leurs racines très profondément dans la société chinoise. Ce sont de véritables conglomérats qui touchent à la santé, puisqu'ils essayent d'optimiser la santé, ils essayent d'optimiser la mobilité, ils optimisent l'ensemble des éléments de la société chinoise jusqu'à l'aspect financier, puisque les paiements en ligne sont un des vecteurs de la croissance du e-commerce en Chine. On a WeChat Pay, on a Alipay. Donc une dimension sociale très forte, c'est un fait social total. C'est aussi une dimension politique parce que ces plateformes e-commerce, elles génèrent de la donnée, elles managent de la donnée, elles managent une base de données des intentions, qui je suis, qu'est-ce que j'achète, où je suis, qu'est-ce que je fais.
Et insupportable pour les Européens.
Insupportable pour les Européens, moins insupportable pour la Chine, qui est une société confucéenne où l'individu doit contribuer au bien commun et un élément, un rouage du bien commun. Et ces conglomérats numériques, ces féodalités numériques, dans une certaine mesure, qui font et construisent le marché, elles sont tolérées par le gouvernement chinois, justement, parce que ça permet de contrôler la base de données des intentions et de gérer le social, de gérer la paix sociale. Donc c'est intéressant aussi de voir cette dimension politique au-delà de l'économie.
Mohamedou Diallo, c'est ça l'avenir de l'Afrique quand effectivement les géants du net chinois se seront implantés partout sur le continent?
Vous savez, il y a une réalité purement africaine par rapport à cette généralisation de l'e-commerce sur le marché africain. Comme on disait, aujourd'hui, ils savent faire jusqu'à très loin, mais pour les last miles, ce qu'ils appellent donc les derniers kilomètres, ça pose problème en Afrique, notamment avec le problème d'adressage qu'il y a, puisque les adresses ne sont pas bien définies. Comment aller trouver une personne qui donne son adresse, qui est située derrière une pharmacie à 200 mètres, etc. Donc voilà, donc il y a ce problème d'adressage qui pose problème aujourd'hui. Lui. Également, la société africaine, comme on le voit au Maghreb, c'est une société méditerranéenne, c'est une société africaine où les gens ont besoin de toucher, de discuter, de marchander, etc. Donc c'est une réalité sociale africaine qu'il faudra tenir compte et que forcément on n'a pas sur ces plateformes de e-commerce. Mais inéluctablement, l'Afrique va se mettre à la page. Donc comme je disais tout à l'heure, la première start-up à avoir levé des fonds aussi importante, donc c'est dans l'e-commerce, c'est Jumia. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres suivent ces tendances. Et je pense que c'est quelque chose qui est inévitable en Afrique et qui va arriver de façon très rapide. Seulement, il faut comprendre les réalités locales. Le point d'adressage n'est pas très précis. Il faudra jouer sur l'humain pour pouvoir aller vers ces points de livraison pour permettre aux Africains d'entrer de plein pied sur cette dynamique de l'e-commerce. Et en ce moment-là, donc, je fais beaucoup confiance à l'ingéniosité des jeunes startups quand je vois ce que fait Koufa en Algérie, quand je vois ce que fait Imart en République démocratique du Congo, ou Itontine au Sénégal, ou encore Iparco au Bénin. Donc c'est des sociétés qui sont dans le domaine de l'e-commerce et qui comprennent les réalités locales, qui comprennent les réalités sociales de chacun de ses habitants, et qui peuvent faire des choses que de loin des entreprises d'e-commerce au niveau international que vous avez dit tout à l'heure ne connaissent pas, donc ces réalités. Et donc je pense que il y a cette dimension africaine, cette dimension sociale qu'il faudra tenir compte pour pouvoir justement apporter des réponses à cette société où il y a ce problème de bancarisation qui est réel.
On va en reparler tout à l'heure, Mohamedou Diallo. Ce commerce à distance, voire à grande distance, il est aussi lié aux évolutions technologiques. On va entendre une illustration en Chine, justement à Yiwu. C'est le grand marché du sud du pays, et comme ailleurs, les usines ont redémarré à la fin du printemps dernier. Le problème, c'est qu'avec l'arrêt des liaisons aériennes dues à la pandémie, avec la fermeture des frontières, eh bien les acheteurs étrangers ne peuvent plus venir physiquement. Alors pour continuer à exporter, les marchands d'Iwu se sont lancés dans ce qu'on appelle le live streaming, les vidéos de vente en ligne. C'est une méthode qui gagne du terrain. Stéphane Lagarde, notre correspondant en Chine, est allé enquêter pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Changement de bureau pour Abakar Niang, un espace plus grand au centre de Yiwu, malgré la pandémie qui continue de freiner les voyages et les échanges. La petite entreprise de ce Dakarois installée en Chine ne connaît pas la crise. Le patron du TGS Group connaît par cœur les allées du plus grand marché de détail de la planète. Mais aujourd'hui, ce n'est plus dans les boutiques que l'on passe commande.
Il y a toujours des boutiques fermées quand même. Il y a moins de visiteurs. Ça commence à ouvrir, mais le reste, les commerçants et les autres, pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à revenir.
Pour s'adapter à l'absence d'acheteurs coincés hors des frontières chinoises, les ventes se font sur Internet. L'une des pièces du nouveau bureau d'Abakar est réservée au live streaming. Une caméra ou un smartphone sur pied, une lampe, et ça suffit.
Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle idée du live streaming parce que ça aide à vendre plus. Avant, les gens montraient des produits sur des photos. Mais si tu montes et tu fais des démonstrations très pratiques et les gens, ils ont confiance.
Ça veut dire que pendant le Covid, eh ben, on a un moyen de communiquer toujours avec les clients.
Oui, ça coûte moins de 20 euros. Au moment même que je fais le live, je reçois des commandes. Moi, je fais sur Facebook et sur Instagram.
Abakar vend ses produits au Sénégal et dans l'ensemble de l'Afrique francophone. Il n'est pas le seul. À Yiwu, tous les marchands ou presque se sont mis à la diffusion en direct sur Internet pour vendre leurs produits. Près du marché, un grand bâtiment blanc.
On est dans un building qui fait live streaming. C'est à peu près 20 étages. Tout le building font du live streaming pour vendre en ligne.
Troisième étage, des petites cabines vitrées où des jeunes femmes le plus souvent font des démonstrations en direct face caméra. Sun a 30 ans, il dirige une start-up qui aide les marchands chinois à s'adapter à cette nouvelle façon d'exporter.
Nous faisons essentiellement la promotion des produits fabriqués à Yiwu, des jouets, des cosmétiques, des produits textiles ou des articles de décoration. Les ventes en direct via le net existent depuis longtemps à l'intérieur de la Chine. En revanche, pour les ventes à l'étranger, c'est tout nouveau. Et la plateforme internationale d'Alibaba a démarré il y a un peu plus de 3 mois.
L'industrie chinoise de la diffusion en direct a été multipliée par 16 entre 2015 et 2019. Fermeture des frontières, suspension des visas, les plateformes de live streaming s'attaquent désormais au marché étranger. Au tribunal des litiges d'Iwu, on s'est aussi très vite adapté. Lily, l'une des employées du tribunal.
Nous avons reçu récemment une plainte d'un client malaisien. Il avait passé commande sur une plateforme de vente en ligne après une démonstration en streaming. Pour régler son différend avec le vendeur chinois, nous les avons mis en lien via la messagerie WeChat. Au final, le vendeur a accepté de payer 250 euros d'indemnité. Ce n'était pas un gros achat et c'est plus économique de régler les choses ainsi que de devoir prendre l'avion.
Mais pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas ou peu d'avions. Les plateformes de vente en ligne ont donc de beaux jours devant elles en Chine où l'on devrait compter dans les 4 ans plus de 640 millions d'utilisateurs.
Un reportage de Stéphane Lagarde-Bertrand à Hartmann. Les Chinois encore en avance sur tous les autres.
Absolument. Je pense que le reportage est très intéressant en ce sens que ça montre l'évolution du positionnement de la Chine dans la mondialisation. La Chine, elle est entrée dans la mondialisation en 2001 avec son entrée dans l'OMC sur un modèle qui est un modèle tayloriste, un modèle de la sueur finalement. On utilise une main d'œuvre à bas coût pour exporter. Et c'est comme ça que la Chine s'est construite et s'est inclue dans la mondialisation. Aujourd'hui, il y a un basculement grâce aux plateformes e-commerce. Grâce à l'innovation aussi qu'apportent ces acteurs du digitaux, et ben la Chine exporte ses marques, exporte ses produits. Et je pense que c'est vraiment une parfaite illustration. Un élément aussi important pour moi, encore une fois, c'est l'innovation. Derrière ces plateformes e-commerce, il y a de l'innovation. Mmh. Il y a de la donnée, de la gestion de la donnée, il y a du cloud, il y a de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une des modalités, encore une fois, de l'inclusion de la Chine, de la nouvelle inclusion de la Chine, ou du repositionnement dans la Chine, dans la mondialisation, distribuer ses marques, distribuer ses produits en direct, monter en gamme et puis exporter sa force en termes d'innovation.
Flavien Neuvy, c'est ça l'avenir de la relation client, des vidéos pour voir un peu mieux ce qu'on achète à distance, l'échange en direct, ça va même devenir une exigence des consommateurs ?
Oui, absolument. Le format vidéo est vraiment un format qui a beaucoup progressé là sur ces dernières années. On voit qu'il y a, au-delà des gens qui veulent vendre leurs produits, des commerçants, on voit qu'il y a des influenceurs aussi qui ont beaucoup d'influence auprès de leur communauté et qui n'hésitent pas à faire la promotion des produits. On voit qu'en particulier les jeunes regardent moins la télévision, c'est une réalité, et se penchent plus sur des plateformes de streaming, regardent des vidéos à la demande, donc la consommation de l'image évolue, et dans ce cadre-là, évidemment, les marchands doivent faire preuve d'imagination. Alors il y a le streaming, mais il y a aussi des vidéos tutoriels, c'est-à-dire qui expliquent comment, par exemple, bricoler, comment préparer tel plat de cuisine, etc. Et les marques et les produits et les enseignes n'hésitent pas à utiliser ces nouveaux vecteurs de communication parce qu'ils sont très porteurs auprès d'une clientèle qui est difficile à toucher par les moyens traditionnels, la publicité, la télévision, etc. Donc c'est vrai qu'on voit les choses qui évoluent et ça m'inspire une chose au fond, c'est que les commerçants qui sont pleins d'initiatives, qui sont à l'offensive en quelque sorte, qui ont envie d'avancer, ce sont des commerçants qui réussissent et qui réussissent à faire du business. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, il faut faire preuve un peu d'audace.
Moi, Madou Diallo, le problème des vidéos, du live streaming, c'est qu'il faut du débit. Ça marche ça en Afrique ?
Oui, ça marche parfaitement avec Facebook. Vous savez, Facebook en Afrique, c'est très répandu dans la jeune société, que ce soit chez les personnes âgées ou même chez les personnes illettrées, c'est quelque chose de qui marche très très bien. Et je vois aujourd'hui dans ce domaine, c'est encore informel, des couturiers, des tailleurs qui proposent leurs modèles sur Facebook et qui proposent des prix que les gens achètent à distance. Mais ce que je viens d'écouter par rapport au reportage qui s'est passé en Chine, je vois que c'est l'avenir où on voit des étages entiers, donc 20 étages, pour faire du streaming et de proposer en live à des clients qui sont situés en Afrique, notamment à Dakar, pour pouvoir acheter sur place, c'est quelque chose de formidable. Et puis, je vois également que même sur ce plan-là, donc les Chinois ont pris de l'avance avec une dimension réglementaire et juridique, avec des juristes qui interviennent, qui peuvent sanctionner le client défaillant, même si c'est à des centaines de milliers de kilomètres de là où on est. C'est quelque chose de à encourager et qui va, à mon avis, se développer très rapidement. Facebook aujourd'hui, que ce soit Facebook ou WhatsApp, c'est des applications, je pense, qui sont faites pour l'Afrique. Et quelqu'un disait récemment, quand on demande aux utilisateurs américains, par exemple, l'utilisation de WhatsApp, des fois, ils ne connaissent même pas ou ne savent pas comment l'utiliser alors que ça a été créé là-bas. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on prend les personnes situées dans le fin fond des villages africains. Ils savent aujourd'hui comment utiliser Facebook, comment communiquer avec LinkedIn et ou encore avec avec WhatsApp. Et c'est un moyen de communication, à mon avis, qui a été fait pour l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont beaucoup appropriés de ces outils-là et qui permettent donc de faire, d'apporter des réponses à plusieurs problématiques liées à l'isolement.
Où va le commerce électronique ? Partout dans le monde. C'est notre sujet cette semaine dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Nous aurons réussi lorsque nous aurons fait 10 000 erreurs. Nous réussirons si nous survivons à n'importe quelle crise. Lorsqu'une crise surviendra, nous y verrons un défi. Nous devrons tous être unis.
Les recettes de la réussite selon Jack Ma, propos tenu l'an dernier par celui qui était alors le futur retraité d'Alibaba, géant chinois du commerce en ligne, Jack Ma, patron visionnaire, hein, quelques mois avant cette crise sanitaire et économique. On continue d'en débattre avec nos invités, l'économiste Flavien Neuvy, Bertrand Hartmann, spécialiste de la transformation digitale en Chine, et Mohamedou Diallo, directeur général de CEO Mag, magazine dédié au secteur technologique en Afrique. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous allions précisément sur le continent africain, au Sénégal. Le commerce électronique a le vent en poupe, même si seulement un habitant sur cinq a un compte en banque. Les sites de e-commerce se multiplient, principalement dans la capitale, Dakar. Près de trois quarts des Dakarois sont équipés d'Internet. Reportage pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Théa Olivier.
Crème pour le corps, masque pour les cheveux et autres produits cosmétiques. Depuis 3 ans, Rosa Manuela Evora, jeune Sénégalaise de 24 ans, achète tout sur Internet pour ne plus avoir à affronter les embouteillages de Dakar.
Ça m'évite de me déplacer. Je vois ce dont j'ai besoin et je fais mon achat. Et à un prix moins exagéré que les autres. Ou même si c'est le même prix que les autres magasins, au moins j'ai le déplacement de moi. Tu payes pas de taxi, tu es tranquillement chez toi. Souvent ici, on dit il faut wakale, c'est-à-dire il faut négocier avec le vendeur. Dans la vente en ligne, tu as déjà le prix. Non, franchement, c'est une super pratique et ça se développe de plus en plus.
Félix Simaki a cofondé en 2014 Fabella Shop, boutique de e-commerce spécialisée dans les produits de beauté. Désormais, il est à la tête d'une équipe de 8 employés et compte 1200 références sur son site. Pour lui, vendre ses produits 100% en ligne était une évidence.
Au niveau de l'investissement initial, c'était un tout petit peu compliqué d'avoir par exemple une boutique physique. Et dès le départ, c'était très simple pour nous, sachant que tout se passe juste avec un ordinateur. La grande évolution, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes intéressées par des achats en ligne. Il y a un an et demi, notre trafic tournait autour de 30 000, 35 000 visites le mois. Aujourd'hui, on tourne autour de 70 000.
Le prépaiement en ligne est passé de 5 à 25% entre 2014 et aujourd'hui, assure Félix Simaki.
Au tout début, c'était un tout petit peu compliqué parce que, en fait, les personnes avaient un tout petit peu de doute sur le fonctionnement de la vente en ligne. Donc, dès le départ, on n'exigeait pas de paiement en ligne, mais surtout un paiement à la livraison. Le gros du problème se trouve au niveau des nouveaux consommateurs qu'on voudrait toucher. Certaines personnes ont du mal à passer une commande en ligne, surtout quand c'est en français. Mais bon, on essaye de réfléchir comment est-ce qu'on peut adapter. Idéalement, c'est d'avoir un site en deux versions, une version en français, une version en Wolof, ce qui pourrait aider au commerce en ligne au Sénégal.
L'un des plus gros acteurs du marché est Jumia Marketplace, basé dans 11 pays d'Afrique, qui met en relation vendeurs et acheteurs sur Internet. Depuis 6 ans au Sénégal, le mastodonte y compte 2000 vendeurs et 1 million de références sur son site, Mohamed Abtesso, directeur général de Jumia Sénégal, explique que 80% du trafic se fait sur téléphone mobile par des clients qui ont entre 24 et 45 ans.
Le Sénégal a une très belle croissance depuis 3 ans. Là, on est sur des croissances à 50% en moyenne par rapport à l'année dernière, où on a redéfini le business model, où on se concentre vraiment sur les produits de grande consommation, particulièrement dans ce contexte de Covid. Ça peut être des denrées alimentaires, du maquillage, la beauté. On était présent pendant très longtemps juste à Dakar. On a ouvert vraiment à l'intérieur et donc on offre même nos services dans les régions, dans les parties rurales du Sénégal. Dans les premiers défis, bien entendu la livraison, le problème d'adressage qui est très présent et aussi il y a la question du prépaiement. 95% de nos transactions se font en cash à la livraison. Ça a vraiment aidé à lever le problème de bancarisation de la population.
Le prochain défi est de livrer des produits frais, plus compliqués à gérer.
Un reportage de Théa Olivier, l'une de nos correspondantes à Dakar. Donc vous avez entendu Mohamedou Diallo, le commerce en ligne, c'est pratique, pas de problème d'embouteillage, c'est un vrai problème, on sait, là-bas pour les Africains, mais deux autres difficultés, le taux de bancarisation et puis celui de la langue, quand on parle plusieurs langues dans le même pays.
Tout à fait. Il a bien évoqué le problème lié à la livraison, donc qui est lié à l'adressage, qu'il a bien souligné. Les adresses ne sont pas très précises et également lever le problème lié aux langues. C'est un vrai problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la crise de la Covid, il y a eu des applications qui sont sorties et qui permettent aux personnes d'avoir accès donc à ces plateformes en plusieurs langues, notamment en Wolof et en Peul, dans le domaine de l'e-santé. On l'a vu également pendant cette crise de Covid où des plateformes d'e-commerce ont permis aux gens de pouvoir acheter du pain en ligne pour éviter donc de faire la queue et donc de respecter les gestes barrières. C'est quelque chose de très important. Et puis il y a une autre dimension que je voulais souligner par rapport à l'émergence de l'e-commerce, c'est le tech for good. Donc le fait de pouvoir, de permettre à la diaspora, qu'on a un peu évoqué dans le cadre de ce reportage, d'acheter sur des plateformes d'e-commerce directement de la nourriture, donc à destination de sa famille basée là-bas. Mm-hmm. Donc généralement, on a des familles avec des personnes âgées ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou de ce problème-là que vous venez évoquer pour éviter les embouteillages. Donc, une personne basée en Europe, basée aux États-Unis, peut directement passer sur se commande sur une application d'e-commerce comme le fait e-Mart au Congo ou d'autres sites d'e-commerce. Malheureusement, Africa Market était un leader là-dessus qui a fait faillite il y a pas longtemps, qui permettent donc aux personnes de la diaspora de passer directement commande à partir des applications et ces produits-là sont livrés directement chez les personnes auxquelles ces produits-là sont destinés. Donc je pense que c'est une révolution qui est là et que c'est un concept purement africain qu'il faudra développer davantage et il y a quelques problèmes liés donc au développement de ces acteurs de l'e-commerce. C'est l'investissement, puisque on ne peut pas se développer sans beaucoup d'investissement. Jumia, que vous traitez tout à l'heure, a eu des difficultés à avoir accès donc à ces investissements de masse, donc ils ont dû fermer dans plusieurs pays ou en gardant quelques pays qui sont plus rentables, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays ça n'a pas beaucoup marché pour Jumia et ils ont dû fermer leur système au niveau local. Donc un problème d'investissement pour les acteurs locaux, le marché est là. Le potentiel est là et je pense que ces acteurs-là ont besoin d'énormément de fonds pour pouvoir développer davantage leur activité.
Bertrand Hartmann, je voudrais vous faire réagir sur deux des questions qui ont été évoquées. Le problème des langues, comment ils font les Chinois alors qu'ils ne parlent pas tous la même langue, hein, on est d'accord ?
Alors, la Chine parle deux langues. Il y a le cantonais en parallèle du mandarin, mais il n'y a pas ce problème de langue. Le problème de langue, plus que le problème de langue, c'est la géographie, la capacité à orchestrer des relations commerciales sur un pays qui est immense et un pays où il y a vraiment des disparités entre les grandes villes et les campagnes, entre les villes de premier rang et celles de second rang ou de troisième rang qui sont plus petites. Et le e-commerce chinois Alibaba, il a été capable de mettre sur la carte de la consommation, de la société de consommation, justement ces plus petites villes. Donc c'est un instrument de dans une certaine mesure d'inclusion sociale.
Autre question qu'on évoquait, les diasporas. Est-ce que les Chinois de l'étranger achètent pour les Chinois de Chine ou inversement ?
Alors, c'est très bien expliqué dans plusieurs des reportages. Forcément, le e-commerce crée des liens entre la Chine et l'étranger. C'est une opportunité pour les marques européennes de vendre en Chine. C'est une opportunité pour les marques chinoises de vendre à l'étranger. Il y a des plateformes dédiées comme AliExpress qui, justement, permettent de créer des ponts.
Eh bien, justement, on va parler de ça. On va aller au Rwanda ou du côté des des entreprises, des producteurs, ces plateformes de commerce électronique peuvent apporter un formidable levier de croissance. Pour les gouvernements, c'est une façon d'accélérer le rythme des importations, de réduire le déficit commercial. Exemple, dans ce pays, le Rwanda, qui joue cette carte à fond, c'est devenu, il y a 2 ans, le premier hub africain d'Alibaba. Jack Ma s'y était rendu en personne. Laure Broulard, notre correspondante, s'est rendue pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans l'usine de torréfaction du café Gorilla. C'est l'une des marques de café les plus emblématiques au Rwanda.
Dans les hangars de Gorilla Coffee, une immense machine à torréfier aspire sans relâche des milliers de grains encore verts récoltés par des petits fermiers rwandais. Emmanuel Makuza, manager de l'usine.
Ici, nous torréfions du café 100% arabica de haute altitude. Et cette machine-là peut torréfier 9 tonnes de café en 24 heures.
Après l'emballage, 40% de la production sera vendue sur le marché rwandais, 60% vers les États-Unis, l'Europe ou encore la Chine. Depuis la signature en 2018 d'un partenariat entre le géant du e-commerce Alibaba et le gouvernement rwandais qui détient entièrement Gorilla Coffee. David Ngarambe, directeur général de l'entreprise.
Le partenariat avec Alibaba a beaucoup aidé au développement de notre marque, que ce soit au niveau des volumes d'exportation vers la Chine ou de la visibilité et de notre produit en Chine.
David Ngarambe assure que les exportations vers la Chine ont augmenté de 200% en 2 ans, mais il refuse catégoriquement de chiffrer le volume des ventes, sauf pour des opérations de marketing en direct et en ligne organisées par Alibaba.
Nous avons fait cela en janvier dernier avec l'aide d'Alibaba et en 20 minutes, 2000 paquets de café ont été vendus. Puis Alibaba a organisé une autre campagne de promotion en direct en mai 2020 et là, nous avons vendu 3000 paquets de café en une seconde.
Au rez-de-chaussée, Marianne a les yeux rivés sur son écran d'ordinateur et l'oreille collée au téléphone. C'est elle qui suit les exportations par e-commerce, effectuées principalement par frais via Rwandair.
La manière dont nous travaillons avec Alibaba, c'est que nous expédions le café en Chine à un distributeur qui travaille avec Alibaba. Une fois les commandes passées sur le site, le distributeur nous commande du café et après il le distribue en Chine. Tout ça, ça m'a vraiment formé aux standards du marché international.
À ce jour, 3 marques de café rwandais ainsi que du piment sont disponibles sur Alibaba. Le nombre d'entreprises concernées est donc encore limité, mais ce n'est qu'un début. Selon Diane Saïn Zoga, directrice des exportations au sein du Rwanda Development Board, une institution gouvernementale.
En 2 ans, entre 8 et 10 tonnes de café rwandais ont été exportées via Alibaba. Vous voyez, les volumes sont encore petits car nous sommes dans un modèle de vente au particulier. Mais nous voulons passer à un système de vente à des grossistes pour augmenter les volumes.
Le partenariat comprend également un volet éducatif. Une 50aine d'entrepreneurs rwandais ont été formés au e-commerce en ligne ou lors de voyages organisés en Chine, tandis que 40 jeunes rwandais étudient actuellement à la Alibaba Business School.
Reportage de Laure Broulard à Kigali, Alibaba qui s'implante aussi en Éthiopie. Flavien Neuvy, comment vous réagissez? Est-ce que ce commerce électronique pourrait être un rempart au protectionnisme, aux guerres commerciales que se mènent certaines puissances dans le monde?
Un rempart, non, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec notamment la position des États-Unis d'Amérique sur ces dernières années, avec un durcissement notamment sur le plan commercial, avec des accords commerciaux qui ont été rompus unilatéralement. On voit bien que c'est quand même le politique au sens large qui décide de la marche du monde sur le plan commercial. Mais ce qui est sûr, en revanche, et votre reportage le montre très clairement, c'est que le e-commerce peut être un formidable levier de développement économique. Bien sûr, pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud, mais aussi pour les pays européens, les pays développés, parce que c'est un vecteur de croissance. Il faut rappeler que les chiffres du e-commerce sont en constante augmentation, encore une fois, alors au détriment souvent du commerce physique, mais c'est quand même un levier de croissance dont il faut profiter, avec quand même, et cela a été dit tout à l'heure, et très justement, la notion de nécessaire investissement et du capital qu'il faut mettre en face. Se développer les des ventes en ligne, ça nécessite des investissements, ça coûte très cher. Je rappelle quand même que on a beaucoup parlé de Amazon, et c'est normal, c'est le leader mondial, mais que Amazon, qui existe depuis maintenant pratiquement 25 ans, a perdu de l'argent quasiment pendant 20 ans. Si vous voulez, donc ça nécessite beaucoup d'investissements, et pour commencer à gagner de l'argent, il faut à la fois être patient, très organisé, et voilà. Et donc du coup, certainement, l'un des enjeux majeurs de ces prochaines années, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe pour les petits commerçants, ce sera de trouver finalement les moyens de continuer à se développer sur Internet et d'avoir le retour sur investissement au bout de quelques temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la patience et il faut des capitaux.
Bertrand Hartmann, généralement les groupes chinois sont assez patients. Quel est le potentiel pour Alibaba, pour Tencent, pour tous les autres sur le continent africain ?
Sur le continent africain, je pense que le e-commerce, il fait partie de la volonté de la Chine de construire une infrastructure mondiale. Ça passe par les routes de la soie, hein, une infrastructure logistique, infrastructure énergétique. Donc on exporte l'infrastructure, les routes de la soie, on exporte l'innovation. C'est le plan Made in China 2025.
Avec cette problématique du dernier kilomètre, hein,
Avec cette problématique du dernier kilomètre. Donc on construit, la Chine construit l'infrastructure du commerce international avec les routes de la soie, avec le e-commerce, mais aussi avec le paiement. Et je pense que c'est un élément aussi très important et un élément structurel, le paiement. Le paiement en Chine, on en a parlé, c'est Alipay, WeChat Pay qui domine 80% des paiements en ligne. C'est très important parce que ça permet de capturer la donnée, ça permet de tracer les trajectoires individuelles. Donc ça a une dimension très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement chinois qui investit dans ces routes de la soie, qui supporte ces entreprises e-commerce pour aller à l'international, pousse aussi la digitalisation des moyens de paiement, la fintech. La banque centrale chinoise va tester très probablement l'année prochaine une monnaie digitale de banque centrale, un yuan numérique. Avec quel objectif derrière ? Alors, premier objectif interne, c'est reprendre la main sur ces paiements privés que sont Alipay et WeChat Pay. Mais derrière, c'est essayer de contester ou d'attaquer la domination du dollar suite aux accords de Bretton Woods, attaquer l'infrastructure financière des États-Unis avec le système de paiement SWIFT où toutes les informations transitent vers les États-Unis et imposer un yuan qui aurait une dimension internationale. À ce jour, la dimension internationale du yuan, elle est fortement relative. Les échanges internationaux se font principalement en dollars. Les monnaies de réserve des banques centrales sont principalement en dollars. Avec cette innovation financière, avec ce yuan numérique, il y a la possibilité pour la Chine de renforcer son rôle dans la mondialisation.
Mohamedou Diallo, ça va intéresser les Africains, ça, un yuan numérique et ses moyens de paiement alternatifs.
Tout à fait. Donc il faut un peu plus d'équilibre par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Comme vous le savez, quand les Africains font des achats, notamment les Africains de la zone France CFA, donc on est obligé de passer par la Banque de France pour avoir des garanties pour l'export. Et aujourd'hui, si on passe des commandes directement via d'autres monnaies alternatives, comme le propose aujourd'hui le Chinois, je pense que ça peut que être bénéfique. Dans ce cadre, je pense que c'est tout à fait important de rééquilibrer les choses, et les Chinois le font. Quand l'exemple que vous avez cité tout à l'heure avec les Rwandais, avec les Éthiopiens, où Alibaba est déjà installé et met en place donc Alibaba Business School qui permet de former les gens à l'e-commerce, participe à cela. Quand on constate qu'aujourd'hui des entreprises africaines également exportent vers la Chine via la plateforme Alibaba avec un grand succès, donc je pense que cela participe à rééquilibrer les choses et que ce commerce, notamment le commerce avec la route de la soie, ne soit pas que unilatéral dans un sens Chine vers l'Afrique, mais également de l'Afrique vers la Chine.
Alors justement, Mohamedou Diallo, si l'Afrique arrive à écouler ses produits grâce au commerce en ligne, est-ce que c'est une façon aussi potentielle de réduire sa dette vis-à-vis des Chinois notamment ?
Tout à fait. Aujourd'hui, quand on voit la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique, elle est complètement déficitaire au détriment de l'Afrique. Et aujourd'hui, si on arrive à exporter des produits, là, on a cité l'exemple du café avec le Rwanda, mais d'autres produits et d'autres services à forte valeur ajoutée, on arrivera justement à équilibrer cela et avoir une sorte d'équilibre et que ce ne soit pas que des produits qui sont pas encore transformés, qui sont exportés vers la Chine, mais des produits déjà raffinés et transformés en Afrique, avec plus de valeur. Donc je pense que cela participe à rééquilibrer les choses et les Européens devraient prendre exemple sur cela et réfléchir davantage sur un nouvel ordre mondial, on en parle depuis très longtemps, pour pouvoir équilibrer les choses, que ce soit au niveau de la finance, au niveau du commercial, pour que les choses soient encore beaucoup plus équilibrées qu'il ne l'est aujourd'hui. Je pense que les Chinois viennent avec une nouvelle compréhension du marché, puisqu'ils ont été un pays en sous-développement jusqu'à pas longtemps, donc ils connaissent les problématiques des pays en développement, ils apportent des réponses que les Européens ou les Américains n'ont pas aujourd'hui.
Bertrand Hartmann voudrait réagir là-dessus.
Je trouve ça très intéressant et vraiment très juste. La Chine s'est développée avec le e-commerce, a cette conscience de l'inclusion sociale, de l'inclusion financière, et je pense qu'elle peut vraiment apporter ça à l'Afrique. Donc c'est vraiment un mouvement, à mon sens, très positif, et ça peut permettre aussi de renforcer aussi la place dans l'Afrique, dans cette globalisation, dans cette mondialisation. Il n'en reste pas moins qu'il faut... Il y a certains points d'attention. Le premier point d'attention, c'est que l'exportation de ce type de plateforme comme Alibaba, par exemple, en Afrique, elle pose des questions sur le risque de domination de ces géants du numérique. C'est pas neutre que une plateforme comme Alibaba ou Amazon, etc., rentre dans un pays en voie de développement parce qu'elle va créer les standards de marché. Elle risque aussi de devenir une forme de monopole et potentiellement d'affaiblir l'écosystème innovant local. Donc ça, c'est vraiment important. C'est d'autant plus important que le numérique crée des effets réseau massifs et que le winner take all, le fait qu'il y ait une plateforme qui domine et qui écrase les autres, c'est la règle d'un point de vue économique. Ça fait partie des mécanismes de marché dans le numérique. Donc il faut prendre en considération cet élément. Je pense qu'il y a une dimension sociale aussi à prendre en considération. On structure l'écosystème de consommation avec du e-commerce, ça change la ville, ça change la physionomie à des villes. C'est fantastique d'être à Pékin et de voir le balai constant de ces livreurs sur leurs petites mobilettes ou sur leurs petits véhicules qui livrent les biens de consommation. Mais c'est une ville qui change avec peut-être moins de commerce de proximité. C'est le cas à Pékin où on a d'un côté les grands centres commerciaux et la consommation en ligne et des petits commerçants qui ferment aussi. Donc c'est un élément à prendre en considération. Puis il y a un impact sur le travail, l'économie à la demande, au clic, l'économie instantanée, ça peut aussi potentiellement précariser ou construire des mécanismes sociaux qui sont sur le on-demand, etc. Et la dernière dimension, la dimension politique, le fait que la donnée peut devenir un élément politique et de surveillance aussi. Donc, fantastique opportunité, mais c'est un fait social total. Il faut prendre en considération aussi les risques sociaux et politiques.
Je voudrais terminer avec vous, Flavien Neuvy. Le mot a été lâché. Monopole, crainte d'un monopole, distorsion de concurrence, avec toutes les faces sombres autour de ce commerce électronique, le règne des influenceurs, des abus, même parfois des arnaques, des publicités trompeuses, la contrefaçon, les produits défectueux.
Oui, c'est-à-dire que c'est une formidable opportunité, effectivement, ça vient d'être dit, mais avec des risques majeurs derrière, qui sont des risques multiformes, avec des conséquences qui peuvent être effectivement très... très dangereuse pour les populations, pour les gens. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et je crois que seule la puissance publique, les États, les régulateurs peuvent permettre justement de faire de cette opportunité une véritable opportunité et d'atténuer les risques. Et c'est vrai que pour la question de la concurrence, par exemple, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux, la question de la concurrence est fondamentale parce que sinon, vous avez un acteur ou deux acteurs qui vont imposer leurs standards, qui vont imposer leurs conditions et au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils s'implantent et qu'ils deviennent dominants, si je puis dire, sur un marché, ils prennent toute la place et ils imposent leurs conditions qui quelquefois peuvent être des conditions ou des clauses abusives. Donc voilà, effectivement,
Il faut les taxer au plus vite, comme le veut Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie.
Il faut qu'ils payent les impôts qu'ils doivent pour contribuer au fonctionnement des États, c'est tout à fait normal. Il faut qu'ils arrêtent d'échapper à la fiscalité et en même temps, il faut contrôler la gestion des données, la libre concurrence, les clauses qui ne doivent pas être abusives vis-à-vis des petits commerçants. Bref, il y a un vrai travail de régulation, mais ça, c'est le boulot des États, des pouvoirs publics.
Merci à tous les trois, Flavien Neuvy, Mohamedou Diallo, Bertrand Hartmann. Merci à nos reporters, merci à Steven Hensley pour la réalisation. Et à la semaine prochaine, ce sera le retour de Jean-Pierre Boris. Il prolongera d'une certaine manière notre discussion d'aujourd'hui puisqu'il parlera des circuits courts dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, que vous retrouvez bien évidemment sur notre site rfi.fr. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.